10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, vous le savez, tous les samedis, une heure pour parler d'islam sur Beurre FM, 10h, 11h. Alors, c'est vrai qu'on parle d'islam dans d'autres émissions, mais c'est votre émission religieuse avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours ce même problème avec ce casque, c'est que j'ai l'impression de m'entendre.
Je sais, c'est ce que j'expliquais à Tariq tout à l'heure, ce qui fait qu'on bégaye, parce qu'on est toujours à contre-temps.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, je l'enlève, je suis plus à l'aise. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bah écoute, vas-y, je te laisse lancer l'émission.
Il me donne la parole.
Hein.
Ça, c'est quand il a rien à dire. Il bug sur son ordinateur. Il me dit tiens, à toi.
Mon ordinateur, il est en panne.
Ah, ben, voilà la réalité. Il est en panne.
Il est chez le réparateur, chez mon frère, le Houari, le réparateur de portable.
Bon. Je lui fais un gros bisou au passage. En ce moment, vous êtes complètement à l'envers, Imam Abdelali.
Bah, quand tu déménages, tu fais des dégâts sur le chemin. Quand tu, par exemple, transportes le matériel électronique qui est très fragile, en plus, tu fais ça par des déménageurs, c'est catastrophique.
C'est les déménageurs bretons
Peut-être, ouais. Je sais pas. Non, il y avait, alors je vais te dire un truc, il y avait, attends, écoute-moi. Il y avait un Français, d'abord. Oui. Il y avait un Albanais. Et il y avait un... alors, c'était quoi le troisième? Non, ça va me revenir tout à l'heure.
Mais vous leur avez demandé ou vous avez reconnu l'accent?
Non. Comment?
Comment? Vous leur avez demandé d'où il venait?
Ah non, mais c'est une société. Hein, moi,
comment vous saviez qu'il il
était... Ah oui, j'aurais posé la question. C'est de quelle origine, bien sûr.
D'accord. Bien. On peut y aller après ces...
Bismillah.
Voilà, ces introductions pour vous chauffer, Imam Abdelali. Et maintenant, je vois que votre prompteur est donc branché. On peut donc y aller. On va parler de la salate aujourd'hui. Est-ce que c'est correct, Imam Abdelali, de traduire salate par la prière?
Non, pas tout à fait.
Ah bon?
Pas tout à fait. Non, pas du tout. C'est aujourd'hui commun. On dit parle de 5 prières quotidiennes. Mais en vrai, c'est pas le mot prière qu'il faut utiliser puisque le mot salate, n'est pas en rapport avec le terme prier, le verbe prier, qui veut dire implorer, même si dans la prière il existe des prières, c'est-à-dire si même dans l'office qu'on appelle, dans cette salate que l'on accomplit 5 fois par jour, il y a des invocations, hein, il y a des prières, mais le bon terme, ça serait, d'un point de vue étymologique, ça serait plutôt la liaison, le fait de se mettre en communication, en lien avec Dieu. En lien avec Dieu.
C'est-à-dire que salate, ça se traduit pas prière. Et donc, la salate, quand on dit la salate, c'est pas la prière.
Eh ben, non, parce que c'est le mot prière qui fait défaut, qui est pas adéquat. La salate est un terme beaucoup plus, c'est un rituel englobant un certain nombre de prières et d'invocations et de récitations du Coran et de postures, etc. Donc le limiter au mot prière qui veut dire prier, qui veut dire implorer, qui veut dire supplier son créateur, eh bien n'est pas le terme adéquat pour traduire le mot salate.
Alors comment vous... alors on va faire à l'inverse.
Alors il y en a qui disent office de la prière. Office de la prière, c'est le rituel qui englobe tout un ensemble de mouvements et de paroles que l'on va prononcer et qui commence par le takbirat al-ihram, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar en levant les mains au-dessus de ses épaules. Et c'est ce qui se termine par le salam. C'est le fait de se tourner vers la droite quand on est à genoux et de dire salamu alaykum wa rahmatullahi à droite et à gauche 2 fois. Et c'est donc aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Voilà comment est défini d'un point de vue juridique la prière. Donc la prière est, comme je te le disais, le rendez-vous que le croyant réalise avec son créateur, avec son Seigneur, afin de promouvoir ce lien intime, cette liaison nécessaire qu'il doit avoir tous les jours, 5 fois par jour. Et donc le mot prière, le mot salat, donc c'est pas quelque chose que l'on va faire simplement de manière robotique, de routinière. Simplement, par exemple, comme quelqu'un qui va dire, moi, je vais faire mes prières toutes ensemble. Juste, l'important, c'est le nombre de prosternations, c'est le nombre d'inclinaisons. Non, l'important, c'est le nombre de rendez-vous. L'important, c'est parce que si on regroupe toutes ces prières en même temps, par exemple, combien on a de rendez-vous avec Dieu à ce moment-là? Un seul, finalement. On a un moment, c'est le moment où on a regroupé ses prières. C'est pour ça que quand les gens m'appellent, me disent « Ouais, mais est-ce qu'on peut regrouper ses prières ?» Je dis « Ouais, mais quand vous regroupez, sachez que c'est, en fait, vous réduisez le nombre de rendez-vous et de rencontres que vous avez avec votre Seigneur. Donc, si Dieu a pensé nécessaire que le musulman, que l'être humain doit avoir 5 moments, 5 rendez-vous, 5 rencontres avec son Seigneur, c'est pas pour rien. C'est parce que l'homme en a besoin. Et on verra tout à l'heure les spécificités et les mérites et les avantages que le prieur, que celui qui accomplit ses prières quotidiennes peut profiter en justement respectant ces 5 rencontres quotidiennes.
Et si vous deviez traduire alors prière en arabe?
Alors c'est c'est dua. Le mot prière, normalement, c'est dua.
C'est ça. Voilà,
dua, ça veut dire invocation, prier, implorer Dieu, demander, c'est-à-dire faire une prière.
Donc, c'est dua.
C'est comme quand on dit « Je vous prie, monsieur, de ceci, cela ». C'est une manière de demander quelqu'un d'inférieur à quelqu'un de supérieur. On dit « Dua huwa talabu al-adna ila al-a'la ». Par contre, le terme « demander » ou « solliciter », c'est d'un égal à égal. Par contre, d'un supérieur vers un subalterne, on dira « C'est un ordre ». Je te demande de manière impérative, de faire ceci ou cela. Donc il y a 3 demandes. Il y a la demande qu'on appelle invocation, du bas vers le haut, de l'égal à égal, c'est iltimas, c'est solliciter, et du haut vers le bas, ça c'est pour enrichir notre vocabulaire et nos terminologies, c'est important. Donc la seule manière de s'adresser à Dieu et de lui demander quelque chose, c'est le dua, c'est l'invocation, c'est la salat, c'est le lien que le croyant va entretenir avec son Créateur pour lui demander l'aide et le soutien qu'il a besoin dans sa vie au quotidien, et notamment pour l'aider à le satisfaire, subhanahu wa ta'ala.
Bien. Alors, Imam Adeli, pourquoi 5 prières par jour et pas 6 et...
Alors, pourquoi 5? D'abord, il faut savoir que au moment où est-ce que ça a été légiféré, c'était 50. On devait faire 50 prières par jour. T'imagines 50 prières par jour? C'est, on aurait le temps de rien faire. On serait toute la journée tous les 10 minutes en train de faire une prière. À l'origine, c'était 50. Mais, le prophète, quand il est redescendu au 6e siècle, à chaque fois, il rencontrait Moïse.
Alors, il faut expliquer quand.
C'est l'ascension.
Ça fait, voilà.
Quand il y a eu l'ascension. Puisque la prière a été légiférée directement de Dieu à son serviteur. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas l'ange Gabriel. C'est pour cela qu'on dit que la prière est un lien direct entre l'homme et son Créateur, et qu'au moment où elle a été légiférée directement, là aussi, entre Dieu et son serviteur, entre son serviteur et son Créateur, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et son Créateur, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est lors de l'ascension, où est-ce que Dieu, à ce moment-là, va lui apprendre à répandre la paix. Il va, puisque le prophète va saluer Dieu, comme on le fait quand on trouve souvent chez les journalistes ou dans le discours un petit peu laïque chez les Arabes, on a le terme tahiyyat. Tahiyyati, ça veut dire mes salutations. Tahiyyati, etc. Donc, le prophète va utiliser ce terme-là. C'est un terme auquel il va utiliser pour parler à Dieu au moment où est-ce qu'il le rencontre. Il dira tahiyyatu lillah. Hein, c'est ce que l'on dit quand on est à genoux. Avant de terminer sa prière, ou à la fin de la deuxième unité, quand on est à genoux et qu'on est en train de bouger le doigt, hein, chez l'école malikite, c'est seulement chez les malikites que ça existe, ça. Les autres écoles, on le bouge qu'une fois au moment de prononcer la shahada. Mais, chez les malikites, c'est tout au long de la formule que le croyant va commencer par répéter ce que le prophète a dit à Dieu. C'est quoi? C'est les salutations, les bontés, les puretés, les prières. Tahiyyatulillah, zakiyyatulillah, tayyibat wa salawatulillah. C'est ce que dit le musulman quand il est en train de prier, qu'il est à genoux et qu'il prononce. C'est ce que le prophète a dit à Dieu au moment où il l'a rencontré après avoir dépassé le jujubier céleste, ce fameux arbre, cet immense arbre, le cèdre, vous savez, le cèdre libanais, qu'on parle, Sidrat al-Muntaha, qui est cité dans le Coran. Je fais un bisou à une petite fille que j'ai vue, que sa maman a appelée Sidra. Allah il la préserve, c'est un joli prénom, et qui se traduit par le cèdre, tout simplement, qui est un arbre jujubier céleste au-dessus des 7 cieux, et qui, après avoir été dépassé par le prophète, arrive devant la présence divine, al-hadra al-ilahiya, et là il salue Dieu. Aïcha lui posera la question, il dit, mais qu'as-tu vu quand tu es arrivé à cet endroit-là? Eh bien, le prophète dit Nourun anna ara. Nourun, je ne voyais que de la lumière. Où que je regardais, c'était blanc et lumineux partout. Puisque Dieu est la lumière des cieux et de la terre, on ne peut pas le positionner, lui donner des contours. Où qu'il se tournait sa tête, il ne voyait que lumière, le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, il sait qu'il est devant la présence divine et il dit salutations à Dieu, bonté, pureté et prière à Dieu. Tahiyyatullah, zakiyyatullah, at-tayyibat wa salawatullah. Sauf que là, Dieu répond à son prophète. Au lieu de lui dire wa alayka at-tahiyyat et sur toi les salutations, comme il aurait dû utiliser le même terme, tahiyyat, eh bien, il lui apprend que non. Ce qu'il veut de lui, c'est qu'il soit source de paix, qu'il soit la paix, qu'il soit quelqu'un qui répand la paix et qui doit être dans une logique de promouvoir la paix dans le monde entre les créatures et leurs créateurs, les créatures entre elles et les créatures avec leurs créateurs, qu'elles soient en paix et en harmonie. Et donc Dieu lui dira Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, et que la paix soit sur toi, ô toi le prophète. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Il continue en disant en plus de cela et la miséricorde et la bénédiction. Et là donc le prophète comprend que toutes ces expressions qu'il a utilisées depuis le début, les salutations, les bontés, les puretés, les sont pas adéquates, même si elles sont pas mauvaises, elles sont bien. On peut dire tahiyati fulan kada, c'est pas interdit, mais ce n'est pas la meilleure des formules. Ce que Dieu veut attend de lui, c'est le salam. Et donc là il dira assalamu alayna. Que la paix soit sur nous, que nous soyons, le prophète dit, que moi je sois et ainsi que tous ceux qui vont me suivre, source de paix. Et que toutes les créatures vertueuses qui vivent sur terre ou dans les cieux et qui adorent leur Seigneur comme il se doit, soient eux aussi source de paix. Voilà le sens profond de ce que l'on peut comprendre et que beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne savent pas, ils répètent des formules, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et ensuite, on parachève, après avoir dit cela, l'attestation de foi qui n'est de Dieu qu'Allah, seul et unique, sans associé. Et on témoigne à la suite de cela que Mohammed est son messager et son envoyé. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Bien, alors comment on est passé de 50 prières à 5?
Eh bien, comme je disais, quand le
mais
prophète...
Mais il y a eu des étapes.
Eh bien, non, tout ça... Oui, voilà,
on n'est pas passé de 50 à 5 comme ça.
Tout à fait, tout à fait.
Bon, dites-moi.
Juste après cela, quand il a appris, il a compris de ce qu'attendait Dieu de lui, Dieu va lui imposer à lui et à sa communauté d'accomplir 50 prières par jour. Donc le prophète est content. Il n'oublie pas qu'il vit, il sort d'une épreuve très douloureuse puisque tout son peuple ne lui cherche que des problèmes. Tout son environnement est contre lui. Il sort d'une crise sociale extrêmement douloureuse puisqu'il a été rejeté par les Mécois, par sa famille, par les gens de Taïf. Et c'est en revenant de Taïf où est-ce qu'il a reçu des coups de pierre et des coups de bâton qu'il est ensanglanté, qu'il vient et qu'il est... on va dire protégé par après avoir utilisé une tradition arabe qu'on appelle l'hospitalité, la demande de l'hospitalité auprès d'un ami de son oncle Abu Talib qui s'appelle Mut'im ibn Adi, qui va lui demander protection. Et à partir de là, et c'est là qu'il réalise cette ascension vers son créateur, alors qu'il est complètement affalé, découragé, attristé, affligé. Voilà comment est le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc c'est pour le réconforter, pour lui redonner courage, que Dieu lui dit bah écoute, maintenant dorénavant je vais t'aider, il y a au prophète, je vais t'aider par le fait que tu accomplisses ce lien, cette rencontre, ce rendez-vous quotidien 50 fois au début. Mais quand il arrive au sixième ciel, Moïse lui dit mais tu te rends compte, 50 prières par jour, ta communauté ne supportera pas cela. Il lui dit mais comment tu peux savoir? Il dit moi j'avais une communauté où Dieu avait endurci les règles religieuses et ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas su la surmonter. Donc demande à Dieu de soulager et de diminuer le nombre de prières quotidiennes par jour. Et là, le Mohammed sallam demande à Jibril de le renvoyer vers Dieu et il refait le trajet retour vers Dieu au-dessus du jugibier céleste. Et donc là, il dit ya Rabbi khaffif ala ummati, c'est-à-dire allège et soulage ma communauté du nombre de prières. Donc là Dieu va lui dire bon écoute, OK, je t'enlève 5 prières. Ça fait 45. Et là, il repart et Moïse lui dit non, c'est trop. Et donc là, encore une fois, il repart. Et ça, et il lui diminue encore 40, 35, 30, 25, 20, 15, ensuite 10. Et là encore, il lui dit c'est trop. jusqu'à qu'il arrive à 5.
C'est toujours Moïse qui lui dit c'est trop.
C'est toujours Moïse qui lui rappelle et qui lui dit, moi je sais ce que c'est que de faire trop de prières par jour, ta communauté ne supportera pas ce nombre de prières quotidiennes. Ils ont trop de choses à faire dans ce bas monde. Ils ont du travail, ils ont des familles, ils ont un environnement. Leur temps doit être partagé, doit être organisé de manière à ce qu'ils puissent à la fois combler les besoins de tous ceux dont ils ont une responsabilité et un droit contre lui. Et donc, le croyant doit accorder à Dieu, dans les prières, son droit, à sa famille, le droit, aux voisins, son droit, à la société, son droit, à lui-même aussi. Il doit s'accorder un moment de repos, de ravitaillement, voilà, il doit se ressourcer. Donc, il doit trouver le moment pour lui-même. Et le prophète dira après cela, accorde à chacun son droit comme il lui est dû. Donc, c'est très important que le croyant gère cet emploi du temps et notamment qu'il le gère autour de ses prières quotidiennes, à tel point que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhum, quand ils prenaient rendez-vous avec quelqu'un, ils utilisaient souvent la notion de la position du soleil dans le ciel. Ils disaient, bah tiens, on va se donner rendez-vous à tel endroit quand le soleil sera la longueur d'une lance au-dessus du ciel le matin, ou bien quand il sera sur le zénith, ou quand l'ombre de chacun d'entre nous sera aussi longue qu'elle-même, etc., etc. Et là, au lieu de faire cela, eh bien, les compagnons utilisèrent enfin ces moments de rendez-vous avec Dieu pour justement organiser leur journée quotidienne. Ils diront par exemple les uns les autres, tiens, on se verra après l'Asr, on se verra après le Maghreb, on se rencontrera avant l'Isha.
Mais qui c'est qui a fixé justement ces moments de prière?
C'est Dieu, bien sûr. De la même manière que les prières elles-mêmes, comment elles sont accomplies, elles ont été légiférées par Dieu. Dieu seul connaît le côté mystique de pourquoi, même si on a certains éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi on se prosterne deux fois, pourquoi on s'incline une fois, pourquoi on fait la prière de sobh avant le lever du soleil, etc., etc.
On
appelle Akam Tawqifi.
Parce que c'est important, Imam Dali, qu'on puisse vraiment avoir toutes les explications sur ce sujet. Vous pouvez bien sûr interroger et poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun au standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, avec l'imam Abdelali Mamoun et nous parlons de la salate aujourd'hui. Alors, on parlait des horaires de la salate. Donc, comment ils sont légiférés ces horaires?
Eh bien, j'enlève le casque, c'est trop. Les cinq prières quotidiennes sont légiférées peu de temps après le retour du prophète à la Mecque, puisque au retour de l'ascension, où est-ce qu'il reçoit l'ordre d'accomplir ses prières, il ne sait pas encore le détail de comment il doit accomplir cette prière. Et donc c'est l'archange Gabriel qui vient d'abord lui expliquer comment faire une prière, donc l'inclinaison une fois, de ce qu'il doit dire au moment de s'incliner, dans l'inclinaison, au moment de se relever de l'inclinaison, au moment de se prosterner, de ce qu'il dit dans la prosternation, quand il se relève de la prosternation à genoux, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'unité, al-raka'a. Cette raka'a, qui est cette unité où il y a une inclinaison et deux prosternations, et il peut y en avoir plusieurs dans chaque prière. Donc là encore, tous ces détails de comment accomplir la prière, c'est Jibril alayhi salam, l'archange Gabriel, qui l'explique au prophète Mohammed alayhi salatu salam, ainsi que les horaires. Alors quand on parle d'horaires, et que vous voyez par exemple dans un calendrier Salat al-Fajr par exemple, vous avez par exemple 6h30, par exemple 6h30 du matin, c'est l'heure de Al-Fajr. D'abord, il faut savoir que le mot Fajr n'est pas le mot adéquat. Et quand on parle d'une prière le matin, et qui est une prière obligatoire, elle s'appelle Salat al-Subh. Et que quand on parle de cette prière et de cet horaire-là, il s'agit là d'une plage horaire. Il ne s'agit pas de 6h30, je dois faire ma prière à 6h30. 6h30, ça veut dire je peux la faire à 6h30, et que je peux continuer à choisir un moment pour la faire jusque avant la fin de cette plage horaire. C'est quoi la fin de la plage horaire du matin? C'est Shuruq, c'est-à-dire le lever du soleil, c'est-à-dire l'apparition du disque solaire à l'horizon le matin. Il fait presque jour déjà. À partir du moment où le soleil, on le voit, c'est le vrai soleil, l'astre.
Le disque
solaire. Dès qu'on commence à le voir à l'horizon, ça s'appelle le Shuruq. C'est la fin de l'heure de Sobh. Et cette plage horaire, on l'appelle, le nom de la plage, ça s'appelle Al-Fajr. Et non pas la prière qui s'appelle Al-Fajr. Il n'y a pas de prière qui s'appelle Al-Fajr. Vous avez une prière obligatoire qui s'appelle Subh. De la même manière que quand le soleil passe au zénith, vous avez une prière qui s'appelle Al-Dhuhr. Quand l'ombre de chaque chose est équivalent à la longueur de celui-ci, ou le double, selon l'école Hanafite ou les autres, eh bien, ça s'appelle l'heure de l'Asr. C'est l'après-midi. Quand le soleil, le disque solaire disparaît derrière l'horizon le soir, c'est-à-dire Ghuroub al-Shams, c'est le moment qu'on appelle Ghuroub al-Shams, eh bien, il y a une prière qui s'appelle Al-Maghrib. Mais on n'appelle pas la prière de Al-Maghrib, Al-Ghuroub. De la même manière qu'on n'appelle pas la prière du matin, Al-Fajr. Hein, chacune de ces cinq prières porte un nom. Donc on a Subh, on a Dhuhr, on a Al-Asr, on a Al-Maghrib, et enfin, la dernière le soir, quand la nuit est obscure, quand le crépuscule, c'est-à-dire les lueurs rouges du soleil qui apparaissent après le coucher du soleil, disparaissent quand le noir est total, quand la nuit tombe totalement, on appelle ça Al-Isha, c'est la nuit, c'est Al-Layl. Ça s'appelle, le moment s'appelle Layl. Et quand la nuit tombe totalement, ça s'appelle ça s'appelle Layl, et la prière s'appelle Al-Isha. D'accord ? Donc vous avez le nom du moment et vous avez le nom de la prière. Il faut pas mélanger. Donc le matin, il y a beaucoup de gens qui font confusion entre Shuruq, Subh, Al-Fajr. Non, Al-Fajr, c'est le moment, la plage horaire où on accomplit cette prière obligatoire qu'on appelle Subh. Et le Shuruq, c'est la fin de l'heure de Subh. Il n'y a pas de prière à Shuruq. À Shuruq, c'est la fin. Et même, il est déconseillé de prière à l'heure de Shuruq. Parce que le prophète nous dit qu'au moment où ce que le soleil se lève, c'est le moment où ce que les cornes du diable apparaissent à l'horizon, avec le ciel, avec le soleil. Donc, le prophète dit, تطلع الشمس مع قرن الشيطان, avec les cornes du diable. Donc, on ne doit pas prier et se prosterner au moment où ce que le soleil se lève, au moment du Shuruq. D'accord ? Et c'est fortement déconseillé, sauf si c'est pour accomplir une prière obligatoire, rattraper une prière obligatoire. Là, toutes les, il n'y a pas d'heure déconseillée pour rattraper sa prière obligatoire, quel que soit le moment, que ça soit lever du soleil, au moment du zénith, au moment du coucher du soleil. Si on a une prière obligatoire à rattraper, on la rattrape. Et donc le croyant, donc Dieu a légiféré ces cinq moments dans la journée pour justement d'abord, dès le lever du matin. Dès que le croyant se lève le matin et qu'il s'est reposé, il a un rendez-vous avec Dieu avant même d'aller réaliser ses rendez-vous. C'est pour dire qu'il doit primer Dieu sur la création. Il doit d'abord rencontrer son créateur avant d'aller rencontrer son prochain et les créatures qui l'entourent. Ensuite, il a toute la matinée pour bosser jusqu'au moment où le soleil est dans le zénith. Donc là encore, un rendez-vous. L'après-midi, encore une fois.
On se recouche pas derrière.
Après le matin, tu veux dire ?
Ouais.
C'est déconseillé. Le prophète dit dans un hadith, Bourika li ummati fi bukuriha. Ma communauté a obtenu de Dieu la bénédiction parce qu'elle se lève tôt. C'est une communauté qui se lève tôt et qui travaille tôt. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et ça a toujours été une devise dans le monde des bosseurs, des travailleurs, de parler de ceux qui se lèvent tôt. Ce sont les bosseurs, ce sont ceux qui profitent de la vie, qui profitent de leur journée. Donc quand on veut véritablement réaliser la volonté divine, c'est qu'on se lève tôt pour prier et ensuite on va bosser. Ensuite on est utile à son entourage, on assume ses responsabilités en allant travailler, en allant faire ce qu'on a à faire, quelle que soit l'activité que l'on a. Mais ces couches tard et ceux qui après font des grasses matinées jusqu'à 2h de l'après-midi, ça c'est pas du tout... louable, et c'est même détestable aux yeux d'Allah, aux yeux de la religion et même aux yeux de la société en général. Hein, regardez une maman quand elle voit son fils comme des jeux. Tariq est en train de me regarder là.
Ah la vache. Parce que Tariq se reconnaît dans le portrait.
Comment il a fait pour se lever ce matin au fait, Tariq ? Vas-y, ouais. Raconte-nous là, vas-y. T'as mis combien de réveils ?
Non, mais ce matin, c'est ma femme de ménage qui m'a réveillé.
Ah, la femme de ménage, d'accord. Heureusement que
cette
pas.
Cette phrase est bizarre.
Non, elle est bizarre. Non,
cette phrase est bizarre.
Tu ne sais pas
pourquoi.
Elle est
bizarre. C'est, non, je sais pas. Ma femme de ménage.
Non, mais c'est ma femme. J'ai une femme de ménage qui vient à la maison et donc elle est.
Elle te réveille à quelle heure ?
Je lui dis 8h et elle est venue à 7h45.
Ouais, elle t'a bouffé un quart d'heure.
Elle m'a pris un petit quart d'heure,
au moins, t'arrives peut-être même avant Shuruq pour faire le Fajr, c'est bien.
C'est bien. Mais là, je suis arrivé toi à la radio.
D'accord, machallah, Alex, c'est bien. En tout cas, voilà.
On a appris que Tariq avait une femme de ménage.
Voilà, moi aussi, je suis étonné. Je pensais qu'il avait une femme tout court, mais non, il a une femme de ménage.
C'est-à-dire qu'il a une femme en ménage.
En ménage.
Depuis que je suis à l'ISF, depuis que je paye l'ISF, c'est tout à fait normal.
Ouais, ouais, ça, c'est sûr.
Tu sais ce que c'est, les
imams? Ouais, c'est l'impôt sur la fortune. C'est un fortuné. C'est un riche Tarek. C'est une star.
Je mets des charges dans ma société.
Il a de ses sketchs de tuerie, franchement. Je vous invite à les écouter.
Quel menteur, il m'a dit.
Ah ouais, je les ai regardés, je les ai écoutés.
Il m'a dit, il y a trop de gros mots dedans.
Non, mais ça, c'est entre nous, faut pas le dire. Machallah. Non, c'est.
Non,
c'est
mais
bien.
Ça le fait rire, c'est le plus
important. On a besoin de talent, on a besoin, c'est bien, c'est Machallah, c'est important. Moi, j'aimerais bien qu'il sorte du lot, tu vois, Tarek, là. Parce qu'il y a trop qui lui ressemblent. Ils sont bons, les autres aussi. Et moi, j'aimerais qu'il soit au-dessus des autres.
Il y a trop qui lui ressemblent.
Ah là, là, je relève le défi devant tout le monde, là. Tarek, bientôt on parlera que de lui. Inch'Allah. Avant de parler des autres, il sera au-dessus du lot.
Je t'entends.
Voilà, voilà, machallah.
Voilà, comment les compagnons ont réagi quand le prophète est revenu avec ses cinq prières et finalement en disant, ben voilà, voilà ce que vous allez faire à partir de maintenant?
Eh bien, ils ont apprécié, ils ont tout ça tout à
ils
fait...
Ils n'ont pas dit c'est trop.
Ah non, 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 au non, contraire, il y a aucun ils ont qui a considéré. Dit, ouais. De toute façon, lui, ce qu'il a fait, il n'aura pas dit vous avez cinq prières tout de suite, il leur a dit, levez-vous, on va faire la prière. Pour Sobh, après pour Dohr, après l'Asr. Et à la fin, comme Jibril l'a fait pour lui, il lui a dit, lève-toi, faire la prière, deux fois, une fois au début de l'heure, une fois pour la fin de la plage horaire. Et il lui a dit, la prière, c'est entre ce qu'on a fait aujourd'hui et c'est ce qu'on a fait hier et ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour lui expliquer la plage horaire, que ce n'est pas 6h30, c'est pas 6h30. C'est 6h30, 7h moins quart, 8h, 7h par exemple, 7h et quart, voilà. C'est toujours l'heure. Tant que le soleil ne s'est pas levé, vous êtes dans votre plage horaire, même si la première heure est la plus appréciée. Il faut quand même pas oublier que la meilleure heure pour prier, c'est la première heure. C'est la plus appréciée. Mais si vous la faites dans cette plage horaire, vous n'êtes pas en faute. Vous n'avez pas commis d'erreur. Vous n'êtes pas sous le coup du verset coranique qui parle de châtiment, de l'ouail, pour celui qui est insouciant. De respecter les horaires de la prière quand il dit Dieu dans le Coran فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ le châtiment pour les prières, pour ceux qui dans leur prière sont insouciants, ou non, qui sont vis-à-vis de leur prière insouciants et non pas dans leur prière, heureusement. Il n'a pas dit فِي صَلَاتِهِمْ سَهُونَ mais عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ et là, et toute la différence, c'est qu'عَنْ c'est vis-à-vis de leur prière, c'est-à-dire qu'ils négligent les horaires de leur prière, et cela aussi peut faire l'objet d'un châtiment si Dieu décide de ne pas leur pardonner. Donc ça, ce sont des erreurs et des fautes que commet le croyant vis-à-vis de Dieu, et donc il est très important de multiplier les istighfar quand on ne respecte pas les horaires pour que Dieu puisse pardonner les fautes que l'on a pu commettre vis-à-vis de lui, et notamment le fait de d'ajourner ou de retarder une prière en dehors de sa plage horaire. Puisque une des conditions de validité, c'est de la faire dans sa plage horaire.
On va voir, Imam Abdelali, les conditions de validité des prières dans un instant. Je rappelle que si vous voulez poser une question à l'imam Abdelali Mamoun, vous appelez le standard de l'islam au présent au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, l'imam Abdelali Mamoun est avec nous. Alors, on discute avec Tarek, là, hors antenne. C'est très mal ce qu'on fait parce qu'on n'est pas concentré, mais on avait des questions techniques qui étaient importantes de vous poser. On en fera profiter les auditeurs dans une prochaine émission parce que je crois aussi que c'est des questions que beaucoup d'entre vous posez. Donc, on le fera prochainement. Alors, on a une question sur la prière et c'est Faïza qui est avec nous. Faïza, bienvenue.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Faïza,
salamu alaikum.
Salamu alaikum, cher. Je voulais vous remercier parce que j'ai pris contact avec vous la semaine passée au sujet de ma mère qui est en fin de vie. Et j'avais des questions sur la mosquée d'Alfortville et le cimetière. Nous avons eu un accord pour l'inhumer.
Oui, je m'en rappelle.
Voilà, donc je vous remercie. J'ai quelques questions supplémentaires, s'il vous plaît, cher. Est-il recommandé d'assister à la toilette de sa maman?
C'est autorisé, mais ce n'est ni recommandé ni déconseillé. C'est autorisé. On peut assister. Ce qui est important, c'est que l'on réalise la toilette funéraire. La toilette funéraire, c'est-à-dire le fait de toiletter le défunt, de le laver, de réaliser une sorte d'ablution majeure, qu'on appelle irtisal. Yurassal al-mayyit. On doit laver le corps du défunt avant d'être enveloppé dans le linceul, avant de faire la prière funéraire, et enfin avant d'être inhumé dans le cimetière.
Très bien.
Ce sont l'ensemble des rituels obligatoires.
Oui. Ma deuxième question, c'est est-il conseillé ou recommandé encore de faire Salat al-Janaza à la mosquée plutôt qu'au cimetière ?
Non, il n'y a aucune recommandation, ni là, ni là. La prière de Janaza est une obligation. Il n'y a pas de lieu favorable par rapport à un autre. Il y a même certains savants qui déconseillent l'utilisation de la mosquée pour faire la prière de Janaza, tout simplement parce que à l'époque, il n'y avait pas de cercueil qui enveloppait et qui protégeait par exemple le lieu de la prière, parce que vous savez qu'un corps ça peut oui. Ça peut, on va dire, lâcher des impuretés, hein. Et mm-hmm. imaginez que dans la mosquée en plus dans certains pays il fait chaud, très rapidement le corps peut très vite gonfler, peut y avoir des souillures dans la mosquée. Donc comme il n'était qu'enveloppé dans le linceul, dans trois linceuls. Donc, pour ne pas souiller la mosquée, on déconseillait fortement d'utiliser la mosquée. Mais n'importe quel endroit peut être utilisé pour accomplir la prière de Janaza. Ça peut être à la morgue, ça peut être dehors, ça peut être à l'entrée du cimetière, ça peut être à l'intérieur du cimetière. Mais il faut le faire avant d'inhumer. En principe, on doit le faire avant que la personne soit enterrée. Et maintenant, si on a oublié de le faire avant, eh bien, ça reste un devoir, on le fera après que la personne oui. est inhumée. C'est arrivé à l'époque du prophète, où une femme qui nettoyait la mosquée est décédée la nuit, et les gens n'ont pas voulu déranger le prophète. Ils l'ont lavé, l'ont mis dans son linceul, ils ont fait la prière, ils sont partis l'enterrer, et quand le prophète a demandé après elle, mais où est-elle, cette dame que je voyais tous les jours nettoyer la mosquée, ben ils lui ont dit, elle est morte, on n'a pas voulu te déranger, parce que ça nous semblait une personne insignifiante à nos yeux. Et là le prophète dit, comment ça insignifiante, elle est aux yeux d'Allah très très importante, car je l'ai vue en rêve cette nuit, en train de ramasser des perles dans le paradis, elle ramassait sur le sol du paradis des perles, comme elle ramassait les impuretés dans la mosquée. Et là, il lui dit, montrez-moi où est-ce que vous l'avez enterrée. Et ils l'ont emmenée là où est-ce qu'elle était enterrée. Et le prophète a accompli Salat al-Janaza, la prière funéraire, sur elle. Voilà. Donc la prière funéraire, si on ne l'a pas fait avant, la personne soit inhumée, on doit le faire après. Ça reste un devoir, une obligation. Salat al-Janaza, fardu kifaya, une obligation collective. On doit le faire pour chaque musulman qui décède. Est-ce que c'est bon?
Ma dernière question, s'il vous plaît, cher, c'est il y a une mosquée à Alfortville en face du cimetière.
Oui, je connais. J'ai été imam là-bas 3 ans. Donc,
c'est celle-là.
Au 40 rue de Nice, oui.
Alors, bon, je l'ai vue sur Internet. Et il y en a une autre, peut-être, je ne sais pas, peut-être plus grande, mais plus loin. Est-ce que celle qui est juste en face.
Alors, si vous parlez toujours d'Alfortville ou bien. Alors, la plus grande qui se trouve à côté, c'est Créteil. C'est la grande mosquée Sahaba. Et sinon, si vous parlez d'Alfortville, vous avez une petite mosquée, par contre, beaucoup plus petite, qui se trouve sur la rue Véron. C'est une petite salle de prière qui ouvre aux cinq prières quotidiennes. Mais c'est une petite mosquée, plus petite que celle de la rue de Nice. Voilà, ma sœur.
Bon, voilà, Faiza, merci.
Appelez-moi hors antenne si vous avez d'autres questions.
Voilà, si vous voulez un complément d'information, vous appelez l'imam Abdelali hors antenne. De redonner votre numéro, imam Abdelali.
06 29 25 35 00. Alors, je répète, 06 29 25 35 00. Merci de, bien sûr, m'appeler après l'émission. Et pas
voilà,
l'émission.
Et merci, imam, de vous mettre en mode avion.
Voilà, c'est ce que je vais faire.
C'est parfait.
J'ai mis en mode avion.
En silencieux.
Donc, 06 29 25 35 00, c'est le numéro pour s'inscrire pour la Omra. Ça y est, c'est parti. Les inscriptions sont lancées aujourd'hui, 1er octobre. C'est le déclenchement, on commence à officiellement s'inscrire pour partir avec moi le 25 octobre, Inch'Allah, de ce mois, pour aller faire un séjour magnifique à la Mecque et à Médine, le 25 jusqu'au 5 novembre, Inch'Allah ta'ala. Donc appelez-moi hors antenne, bien sûr, après l'émission, 06 29 25 35 00, voilà, c'est tout dit.
Féris, Argenteuil, au 01 53 48 3000, Féris, oui. Bienvenue.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam, Faris.
Oui, j'ai 3 questions à vous poser.
Tous les gens qui sont au standard, vous avez 3 questions, vous aussi.
on va essayer de répondre rapidement.
Allez, on y va.
Alors, mais je vais essayer d'être très rapide. Si vous voulez, je pose les 3 questions, après je vous laisse répondre.
Non, une par une, parce que sinon je ne pourrais pas. Allez-y.
Une par une, d'accord. Bon, la première, tout à l'heure, vous avez dit que c'est très conseillé de... d'être, on va dire, matinal, comme vous avez dit, c'est-à-dire, on fait la prière de sobh et après, si on peut rester réveillé pour aller travailler, c'est conseillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé ça. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, en hiver, il n'y a pas de souci. Le fajr, il est à 6h du matin à peu près, donc on peut faire la prière et rester éveillé pour aller au travail ou pour faire des choses, quoi. Par contre, en été, quand le fajr, il est à 3h du matin ou à 4h du matin,
C'est vrai. Bon, oui, d'accord. Là, on peut effectivement faire une prolongation après le Fajr. Mais bon, vous savez que quand on est à Médine ou à la Mecque, le Fajr, il est au maximum, au plus tôt, 5h30 du matin. Donc, il est jamais à 3h comme en Europe et comme dans le nord de la planète. Parce que plus vous allez dans le nord et plus, bien sûr, les horaires vont dans les extrêmes. Vous avez carrément en Scandinavie des couchers de soleil à 1h du matin et des levées de soleil à 2h du matin ou même moins que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bien sûr, on va pas dire que la journée, la nuit dure qu'une heure et qu'après avoir dormi une heure, il faut bien sûr, quand on dit, on parle dans le raisonnable. C'est-à-dire qu'à partir du 6h du matin, c'est le matin, yallah, bismillah, quel que soit la position du soleil dans le ciel, on dort, on fait des nuits normales en moins de entre 6 et 8 heures. Hein, pour bien être efficace dans la journée, il faut assumer, il faut donner à son corps le haq ta'a, comme
on dit. D'accord, donc on est d'accord, on peut dormir après le fajr en été.
Voilà, quand on dit le matin, c'est 6 heures à peu près, 6 heures, 7 heures. Non, le fajr, voilà. Après, je répète, ce n'est pas une obligation.
Oui, mais c'est fortement recommandé, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est la première question. Deuxième question, ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire, en été, en fait, l'Isha, il est à peu près à minuit, à peu près dans certaines villes, 23h30, 23h40. Et du coup, si on doit faire l'Isha et puis se réveiller al fajr et puis se rendormir pour se réveiller après le matin pour aller au travail, c'est un peu compliqué.
C'est la même chose, je pense qu'avec ma réponse que j'ai donnée tout à l'heure, tu dois faire l'analogie avec le soir aussi, pareil. Donc tu fais ta prière de l'Aïcha et tu fais en sorte d'assurer tes besoins en sommeil. Si tu dors à 11h, tu vas dormir jusqu'à au moins, je sais pas moi. Bon, après, si le Fajr, il est en été, il est très tôt, effectivement, tu vas te réveiller à 4h, tu te rendors après la prière pour combler tes besoins en sommeil.
J'avais pas fini ma question. Ma question est-ce qu'on peut faire le Maghrib et l'Aïcha ensemble à l'heure de le Maghrib? Et comme ça, on peut dormir un peu plus tôt pour pouvoir se réveiller à le fajr.
Oui, on peut le faire à titre exceptionnel, mais pas tous les jours. Il ne faut pas que ça soit une habitude.
D'accord.
Et attention, il ne faut pas, après que vous ayez pris l'Isha, vous allez regarder la télé ou vous restez réveillé jusqu'à l'Isha. Parce que si c'est pour rester réveillé, à ce moment-là, il faudra refaire l'Isha à l'heure. D'accord. Par contre, si tu t'endors tout de suite après l'Isha, après avoir fait l'Aïcha, après le Maghreb et l'Aïcha, et que tu te réveilles qu'à Sobh, là, effectivement, c'est bon, c'est valable. Mais si c'est pour se réveiller la nuit ou se réveiller, ou ne pas dormir après l'Aïcha, eh bien, à l'heure de l'Aïcha, il faudra refaire l'Aïcha.
Oui, d'accord. Et toujours dans le même sens, hein, j'ai des connaissances qui font, en fait, quand ils rentrent du travail vers 8h, 8h30, ils font une petite sieste. Après le travail, ils font une petite sieste, justement, pour qu'ils puissent rester éveillés jusqu'à l'heure de l'Isha. Et en fait, ma question est, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai entendu que c'est déconseillé de faire une sieste après l'Asr.
Alors, cet argument-là est totalement faux, puisque le hadith qui parle de ça, de fait de dormir après l'Asr, il est carrément faux, le hadith. Il n'est pas faible, il est faux. Il y a un hadith, mais qui est faux, qui a été répertorié dans la catégorie des hadiths forgés, ce qu'on appelle hadith al-mawdu'a, al-makzoub an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de karahiyya ni de tahrim de dormir après l'asr. Je répète que d'un pays à un autre, l'asr, c'est quoi l'asr? Et déjà, entre l'été et l'hiver, c'est quoi l'asr? L'asr en été, c'est jusqu'à presque 10 heures le soir. Donc moi, si je veux dormir, faire une petite sieste entre 8h et 9h du soir, et c'est l'asr. Alors que en hiver, c'est déjà après l'Isha. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut rien dire, cette histoire d'interdire quelqu'un de dormir. On dort quand on a besoin et quand on a le temps et qu'on a un peu de temps. Mais l'idéal, c'est de dormir dans la journée, quand je veux dire en dehors de la nuit, de faire une petite sieste c'est très utile pour le corps humain et pour l'esprit et pour le cerveau, de reposer son cerveau par des micro-siestes, par des mini-siestes d'un quart d'heure, une demi-heure, une heure maximum. Dans la journée, c'est très très bon pour le corps et pour le métabolisme et pour se redonner de l'énergie. Je suis sûr que Philippe, il a dû avoir un spécialiste le matin qui parlait des bienfaits de cette sieste, n'est-ce pas Philippe?
Alors après, c'est les micro-siestes, hein. Il faut pas faire des trop longues siestes.
Il faut pas que ça soit 3 heures, une demi-heure.
Tu tapes toute la journée, 3 heures de l'après-midi, 3 heures.
Sinon, tu te réveilles pas. Alors là, t'es mort.
Ouais,
mais on est d'accord que c'est bien.
Et tu t'endors pas le soir.
Mais on est d'accord que c'est bon pour le corps que de faire cette sieste-là.
Après,
il y a même des entreprises qui prévoient des salles de repos exprès pour ça.
Oui, voilà. Mais c'est chacun son rythme. Il y a des gens qui sont habitués, qui peuvent dormir 5 minutes sur une chaise et c'est reparti, hein.
D'accord. Donc la réponse est claire. Du coup, on peut se reposer quand on veut. Il n'y a pas de restriction.
Non, il n'y a pas. Non, okay, après l'Asr, non, surtout pas. Non, après l'Asr, le hadith est totalement faux. Je vous le répète.
D'accord. Donc on peut se reposer quelques minutes, quoi. Et ma dernière question après.
Non, là, ça fait 4, Farid.
Non, c'était en fait à chaque fois la même question qui.
Vite, parce que ça y est, l'émission est terminée.
Oui, oui, rapidement. En fait, juste avant de dormir, il y a Adkarnom, d'accord. On appelle Adkarnom. Est-ce que on peut rajouter sur ces adkarnom, par exemple, à la fin, juste avant de s'endormir, par exemple, la ilaha illallah, parce qu'il y a un hadith qui dit celui que son dernier mot, c'est la ilaha illallah, il va au paradis. Est-ce que le fait d'ajouter ça après adkarnom, est-ce que c'est considéré comme bid'a?
Non, pas du tout. Le fait de prononcer la ilaha illallah à quel que soit le moment dans la journée, ça ne sera jamais une bid'a que de dire le mot la ilaha. Au contraire, c'est l'expression d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne pourra jamais être déprécié par Dieu. Alors que c'est le mot que Dieu aime le plus sur tout ce que peut prononcer l'être humain. C'est l'expression la ilaha illallah. Donc que tu le dises avant d'aller dormir, c'est très très bien mon frère. Il n'y a aucun problème.
Voilà, Féris. Merci pour vos questions. La semaine prochaine, émission spéciale. Une émission spéciale Maoulid.
Maoulid Nabawi, effectivement, puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, est né le 12 Rabi al-Awwal, et que le 8 octobre prochain, donc c'est-à-dire samedi prochain, nous serons le 12 Rabi al-Awwal, le 12 du troisième mois lunaire, qui correspond à la date anniversaire de la naissance de notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous célébrerons ce moment important dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'islam, qui est la naissance et le décès aussi, mais aussi l'immigration. Tout cela s'est passé pendant cette période.
Si on vous fait un signe, ça veut dire qu'il faut que vous vous arrêtiez.
Allez,
voilà, alors, ne faites pas comme si vous ne voyiez pas Tariq.
Ah, j'ai pas vu Tariq. Non, il était derrière mon dos, là. Je lui avais tourné le dos.
Voilà, Tariq. Je suis fâché. L'antenne. Dans un instant, les petites annonces, hein, au 01 53 48 3000.
Salam alaikum.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net.